Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Alors comme ça, vous souhaitez courir un marathon. Alors nous allons prendre les conseils d'un coureur qui a couru plusieurs marathons. Beaucoup de marathons même. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Et j'ai réussi. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et ben là, ça sera le cas cette semaine avec un épisode spécial. Oui, c'est un petit bonus, hein, spécialement pour le marathon de Paris qui a lieu ce week-end. J'ai enregistré aujourd'hui un épisode avec quelqu'un qui va courir ce marathon de Paris. Mais contrairement à vous, ben, ou à certains d'entre vous, peut-être, c'est pas son premier marathon à lui. Non, non, lui, il en a déjà couru un bon paquet. C'est un épisode façon dernier ravito, vous savez, c'est à l'arrivée d'une course, vous discutez avec votre voisin, alors qu'est-ce que t'as pensé de la course, etc. C'était ta première course, c'est ton premier format, etc. Imaginez comme ça, voilà, dimanche, l'arrivée du marathon de Paris, vous discutez avec quelqu'un, et vous dites alors, c'est ton premier marathon, il vous dit, bah non, c'était pas mon premier, t'en as fait combien? Et bien, il vous répondra, ben là, c'était mon 41e. Et ben c'est peut-être Philippe Molimard, alias Tintin Runner 34. Oui, hein, mon invité du jour a déjà fait 40 marathons et dimanche, il sera au départ de son 41e marathon. Mais au fait, comment Philippe est arrivé à courir autant de marathons? Pourquoi est-ce qu'il court? Après quoi il court? Quelle est sa philosophie de course? Quels sont ses conseils? Comment se prépare-t-il? Vous allez voir que Philippe a plusieurs stratégies selon les marathons. Il y a des marathons qu'il va faire pour faire un temps, puis il y a des marathons qu'il fait pour s'amuser, dans lesquels il va même se déguiser, d'où le fameux surnom de Tintin Runner 34. Et vous allez voir que même avec son expérience, hein, des marathons, d'en avoir couru 40, bon, il a eu quelques mauvaises expériences, il nous en parle aussi. Il se fait avoir par exemple par l'ambiance, hein, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Et puis Philippe ne court pas que les marathons, il est monté jusqu'à l'ultra, 177 km, mais aussi des courses type 24 heures, 6 heures, 12 heures. Enfin bref, vous avez compris, Philippe court beaucoup. Il nous explique d'ailleurs comment il fait pour avoir des dossards dans ses courses, comment il fait pour participer à autant de courses, parce que il a une stratégie en fait toute simple, hein, pour avoir autant de dossards. Et puis il a un objectif et il nous partage son objectif de quel est son objectif, après quoi il court et qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis on a aussi discuté, il m'a aussi glissé quelques noms de drôles de personnages qui finalement pour eux courir 40 marathons, ben c'est pas grand-chose parce qu'ils ont couru encore plus. Oui, vous allez voir, on rentre dans un autre monde où les marathons sont courus aussi beaucoup à des petites vitesses. Toute petite vitesse, mais pour le plaisir, pour la fête, pour aller boire aussi des coups sur les ravitaillements quand on parle de certains marathons comme le Beaujolais, comme Chablis, comme le Médoc, etc. Voilà, c'est une autre vision du marathon et je voulais vous la faire partager aujourd'hui dans cet épisode Dernier Ravito, ce petit bonus là spécialement pour fêter ce fameux marathon de Paris qui pour moi a été mon premier marathon et qui pour vous peut-être, pour certains, sera aussi votre premier marathon. Et vous allez voir la conclusion qu'on a avec Philippe sur le fait que c'est une fête, c'est ce qu'on disait aussi avec Églantine. Chez nous, c'est vraiment une fête, alors profitez-en. Voilà, je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Philippe et je vous souhaite à tous une belle écoute et puis une belle course, surtout si vous êtes dans une préparation marathon. Allez, c'est parti. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ben écoute, ça va bien, un peu stressé encore, un peu stressé parce que bon, dans 2-3 jours, ben c'est, comme tu dois le savoir, c'est le marathon de Paris. Et bon, c'est un événement tant attendu depuis le Covid, quoi.
Alors attends, t'es en train de me dire que tu stresses, toi, avec ton expérience, à l'approche de ton marathon de Paris?
Tous les marathons sont différents, donc la préparation s'est bien passée, mais on arrive toujours avec un petit stress.
Alors, pour que les gens comprennent bien la question quand même, je vais te demander combien tu as couru marathon jusqu'ici.
Eh bien, ce sera mon 41e marathon dimanche.
41e marathon. Et tu stresses encore avant ton 41e marathon.
Oui.
Mais c'est vachement rassurant pour moi, en fait. Parce que moi, je me suis dit, moi, je stresse avant mon premier marathon, et tout le monde stresse en son premier marathon. Mais si on stresse encore au bout de 40 marathons, je me dis, bon, il y a toujours des trucs à apprendre. J'imagine, c'est quoi qui te fait stresser comme ça?
En fait, il y a toujours une part d'imprévu hein, sur une distance pareille. On n'est jamais... Ou est-ce qu'on peut partir trop vite hein, ou un jour sans le jour J, on n'est peut-être pas sûr de... Enfin, on n'est peut-être pas... dans le bon jour en fait hein, c'est stressant quoi.
C'est stressant. C'est 40 marathons.
Ben après ça peut être du bon stress aussi hein, parce que bon ça permet de se recentrer aussi sur soi quoi.
Oui. En fait 40 marathons ça représente combien d'années de course ?
Alors, j'ai repris la course à pied en 2012 et j'ai commencé les marathons après en 2014, où j'ai fait mon premier marathon à Montpellier, puisque j'habite sur la région de Montpellier. Mmh. Et puis ça s'est enchaîné bizarrement, parce que j'ai rencontré des gens tout au long des années suivantes qui sont des férus de marathon. C'est le groupe Courir le Monde. Et on se retrouve sur beaucoup d'événements et on profite des expériences des uns et des autres. Mmh. Ça permet aussi de s'héberger sur des courses, par exemple, si on veut aller à La Rochelle ou autre, ben, qu'il y a une personne qui habite La Rochelle, ben, soit il nous héberge, enfin, on s'héberge mutuellement sur les événements quand ils sont proches de chez nous.
Je suis pas très bon en maths là comme ça, mais tu me dis 40 marathons depuis 2014, tu m'as dit.
14. J'ai fait quelques marathons où je fais une année où j'ai fait 15 marathons dans l'année quoi.
Attends, 15 marathons dans l'année.
Voilà. C'est en fait, c'est un des concours de circonstances parce que je fais des concours sur Facebook et Instagram et il m'arrive de gagner des dossards et du coup, je vais faire les marathons quoi en fait. Parce que j'adore ça. J'adore l'ambiance. J'adore rencontrer des gens différents et puis je fais aussi des marathons festifs, pas forcément que pour le chrono. Hein. Je fais des marathons des fois en 5-6 heures pour la rigolade.
Oui, et je me disais d'ailleurs, quand tu fais 15 marathons dans l'année comme ça, tu as des préparations spécifiques pour un marathon ou suffisamment
Non, du tout, parce qu'on ne peut faire qu'un... Moi, personnellement, je préfère faire un marathon pour le chrono et puis le reste pour un dilettante, mais le faire pour... de courir et retrouver les copains quoi.
Et donc ton marathon de Paris là c'est le combien que tu vas faire?
Alors ce sera mon 4e marathon de Paris. Mmh. Donc en 2015, 2016 et 2019 et là donc 2020 il n'a pas eu lieu et donc 2021.
Et bah tu sais quoi, 2019 on a couru la même course parce que j'étais au marathon de Paris, moi c'était mon tout premier, alors toi j'imagine ça devait en avoir déjà plus de 30 dans la musette à ce moment là.
Ouais à peu près, enfin, le marathon de Paris 2019 hein, c'était mon 28e, voilà.
28e marathon, ouais. Alors j'imagine, donc, tu dis courir le monde, t'as fait quoi comme marathon? Donne-nous des destinations où tu es parti courir le marathon.
Eh ben, je suis parti donc à Barcelone, je l'ai fait plusieurs fois parce que c'est un marathon c'est mon marathon record en fait, 3h44. Hein, et bon, il est pas loin de chez moi et ça me permet de visiter aussi la ville parce que j'adore cette ville-là. Et après, j'étais sur Valence, Gironde, beaucoup en Espagne hein, parce que bon, c'est à côté. Et sinon, après, c'est les marathons français, hein, la plupart. Hein, Grésivaudan, le marathon du Grésivaudan du côté de Grenoble, marathon de Nevers deux fois, Cernay-la-Ville, le premier marathon français de l'année. Et après, bon, j'ai fait marathon de nuit Bordeaux, que j'ai pas trop aimé en fait, parce que bon, c'est un mélange entre les semi-marathoniens et marathoniens, ça part vite, c'est un peu la bousculade quoi.
Ouais.
Et bon, là je retourne à Valence cette année aussi, parce que il y a 2 ans, je l'avais bien aimé. Et c'est un marathon très roulant en fait.
Est-ce qu'il y en a un sur lequel, pour l'ambiance, par exemple, tu dirais quelqu'un qui se pose des questions, quel premier marathon courir ou quel marathon courir absolument parce que l'ambiance elle est au-dessus des autres ou spéciale, ça serait lequel?
Sans aucun doute le marathon des Châteaux du Médoc parce que c'est un marathon très festif et franchement je suis allé qu'une seule fois, mais je me suis réinscrit l'année d'après parce que c'est vraiment formidable, quoi. Les ravitaux sont superbes. Il y a des marathons festifs qui sont bien, comme le marathon du Beaujolais qui va bientôt avoir lieu, là, donc le troisième dimanche de novembre. Mais franchement, le mieux, c'est le Médoc. Pour l'instant, que j'ai couru en festif avec le marathon du Cognac.
Ah oui, attends, tu fais tous les marathons où il y a des trucs comme ça là,
ah,
Beaujolais.
Oui, Beaujolais, Cognac. Hein, je m'étais inscrit à Blaye il y a l'an dernier, mais il n'a pas eu lieu. C'est des marathons qu'il faut faire, quoi. Pour le plaisir hein, de courir et puis de faire la fête, quoi. Entre coureurs. Après, bon, il y a des coureurs qui le font rapide, mais bon, la plupart du temps, quand on fait les marathons festifs, eh ben on prend du plaisir et on part. On profite des ravitaillements.
Oui, bah c'est vrai que c'est le principe, hein, finalement. Je ne sais d'ailleurs même pas à quelle vitesse le vainqueur du marathon du Médoc le court réellement. S'il y a un temps, il doit y avoir des temps officiels.
Oui, il y a des temps officiels, mais après, bon, je ne regarde pas les chronos sur ce genre de marathon. Hein. L'objectif du marathon du Médoc, il y en a qui disent on fera mieux l'année prochaine, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que on se rapprochera plus du serfil de la voiture balai, quoi.
De la voiture balai. Par curiosité, j'ai regardé. 2h26 quand même, hein, le premier. Il ne doit pas mettre le même temps que les autres.
Oui, non, parce que je ne sais plus combien on doit mettre. Je crois que c'est 7h ou 8h sur le marathon du Médoc, le temps limite.
Tiens, tu vois, je suis en train de regarder 7h10 en 2019 le dernier. Bon, effectivement, ça fait des barrières horaires qui sont larges, ça a le temps de profiter de tout, quoi.
Ben ouais, on va les ravitaillements se font dans les châteaux, on boit du très bon vin, il y a des très bons ravitaillements tout le long. C'est pas tous les 5 km hein, comme dans les marathons rapides. Mais c'est une bonne expérience en fait. Tout le monde est déguisé.
Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience sur marathon? Est-ce que tu as un marathon que tu n'as vraiment pas aimé?
La mauvaise expérience était en 2019, toujours le marathon de Montpellier où j'étais très 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 malade tous les kilomètres à partir du 29e. Et bon, je devais pousser une Joëlette, une personne handicapée et j'ai pas pu suivre le rythme à partir du 29e, et ben j'ai lâché le groupe parce que j'étais malade. Voilà. J'avais des problèmes gastriques et j'ai pas pu suivre et tous les kilomètres je vomissais tout ce que je savais. Donc c'était pas vraiment l'idéal comme marathon.
Je sais pas si ça va rassurer les gens qui courent leur premier marathon mais qui se disent
Ce qui s'est passé, c'est que je buvais beaucoup trop d'eau gazeuse pour rassurer tout le monde. L'eau gazeuse n'est pas très compatible pour la course à pied, ni l'alcool d'ailleurs. Hein. Il faut être avec modération, tout avec modération. Parce que bon, en fait, je buvais trop de gazeux. Voilà.
D'accord. Donc, pour ceux qui se posent la question, déjà, on élimine l'eau gazeuse, trop d'eau gazeuse pendant qu'on court. Après, oui, on récup. Hein, il y a les fameuses ceintures et compagnie.
Ceinture, c'est la salvetta. Mais il ne faut pas en boire trop souvent. Voilà.
Voilà. Donc déjà, hop, un premier conseil que tu vois qu'on a glané comme ça au passage. Non, parce qu'il y en a plein en fait. Toi, ce sera ton 41e marathon dimanche, mais il y en a plein pour qui ce sera le premier marathon, qui auront des petits signes sur le dossard disant que c'est leur premier marathon. Et là, ils stressent un petit peu, tu vois. Je vais diffuser juste avant qu'ils prennent le départ comme ça.
Ouais.
Si t'as un conseil, toi, un débutant comme ça qui vient de voir et qui dit, je cours mon premier marathon. Toi, l'expérimenté, t'as pas un conseil à me donner, tu lui dirais quoi?
Eh bien, courir pour le plaisir avant tout. Hein. Le premier marathon, ça sert à rien de se mettre en tête un chrono. Hein. Le finir avant tout, passer la ligne d'arrivée. Voilà, c'est primordial parce que de toute façon, le premier marathon, le corps, il connaît pas la distance. Hein, puisque généralement, en entraînement, on court pas un marathon en entraînement. Maximum de sortie longue, c'est 30 km. 30 km, hein. Enfin, pour moi, hein, en tout cas, je pense. Hein. Et donc, le corps, eh ben, il faut qu'il s'habitue à la distance, hein, c'est tout. Hein.
Oui, mais c'est vrai, parce qu'en plus, quand on regarde les plans, moi, j'ai quelqu'un au club qui faisait 36 au maximum hein, sur une préparation marathon, mais en fait, c'est parce qu'il court vite.
Oui, voilà, oui.
C'est qu'une sortie longue, quand il part en sortie longue de 2h30, en fait, c'est qu'il court vite. Donc, lui, il a le temps de faire 36, alors que, à mon allure. Mais en fait, je regarde, je dis à mon allure, mais à la tienne aussi, parce que 3h44, tu vois, moi, j'étais pas loin, je suis à 3h46 sur mon marathon. Donc,
c'est bien, déjà. Ouais. Premier marathon.
Ouais, et c'est vrai que je pense que c'est d'ailleurs une question qui est intéressante, c'est que au début on sait pas quel temps se mettre, et c'est vrai que se dire bah voilà, je prends du plaisir et puis je me fixe pas trop sur un objectif chrono, je pense que c'est une bonne manière d'aborder le premier en tout cas.
Ah oui, tout à fait, parce que on se met pas la pression, on dit juste le finir et les prochains on s'améliore. Voilà.
Et t'arrives à t'améliorer à chaque fois ou
enfin... Non. Honnêtement, ça fait 3 ans que je n'ai pas dépassé les 4 heures. Enfin, que je n'ai pas descendu sous les 4 heures. Mm. Bon, après, c'est le fait d'en faire beaucoup et de faire aussi du long, puisque j'ai fait du très long, quoi, de l'ultra distance avec des 24 heures, et la plus grosse course que j'ai faite, c'était 177 km. Sur le tour du golfe du Morbihan, l'ultramarin.
Oui, alors là, on va faire un petit clin d'œil à tous ceux qui sont dans ce coin-là, parce qu'il y en a un bon paquet. J'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai sur le podcast qui me font du trail, ils ont fait un jour l'ultramarin. Mais c'est vraiment une course qu'il faut faire.
Ben, pour moi, c'était mon Graal. Mmh. Parce que, bon, en fait, j'allais en vacances tous les ans jusqu'à l'âge de 17 ans. J'allais en vacances au golfe du Morbihan, sur la presqu'île de Ruisse. Dans le Morbihan. Donc, quand j'ai connu, enfin le, quand j'ai vu le qu'il y avait une course là-bas, j'ai dit oh, il faut vraiment que je la fasse. Et j'ai commencé d'abord par une des petites distances, le 56 km, pour ensuite après augmenter à 87, donc la moitié du tour. Et puis en 2018, eh ben je me suis lancé sur le tour complet, 177 km autour du golfe. Voilà. Et donc là, ben, c'est de l'entraînement, c'est bouffer du kilomètre, comme on dit, faire des doubles sorties par jour, alimenter jusqu'à 130 ou 140 kilomètres par semaine, pour après ben, tenter de le finir. Voilà.
En fait, j'avais vu que tu avais fait le trail du Morbihan, parce que quand j'ai fait des recherches tout à l'heure, sur BitTrail, je sais pas si tu connais le site, il m'a remonté ta fiche, tout comme ça, j'ai vu 177 et tout. Tu dis que c'est ton Graal, t'as pas ambition d'aller sur des courses, t'as jamais été tenté de te dire je vais essayer l'UTMB ou des choses comme ça?
Finalement, non, parce que je suis pas très bon grimpeur ni descendeur. Et bon, la distance donc de l'ultramarin, certes, elle est longue. Elle fait à peu près la même distance que l'UTMB, mais bon, au niveau dénivelé, ça n'a rien à voir. Il y a 1000 mètres de dénivelé sur l'ultramarin, alors que sur l'UTMB, il y en a 10 000, quoi. Mmh. Enfin, c'est 10 fois plus.
Ouais, mais t'imagines, tu fais un concours, on t'offre le dossard, tu y vas?
Écoute, cette année, j'ai gagné le dossard pour les trails des passerelles du côté de Grenoble. J'ai voulu tenter la plus grande distance, 65 km, et puis ça s'est quand même assez mal passé parce que bon, je suis tombé au 25e et j'étais cuit au 30e. Par le fait que bon, ça montait et puis moi, je suis pas très bon en montée, quoi. Donc, je m'étais dit bon, quitte à y aller, ben je vais faire la plus grande puisqu'il faut comme ça, je passe les deux passerelles du Monténard et c'est très joli. Quand on regarde les vidéos, ça donne envie. Hein.
Ouais, surtout quand il fait beau, parce qu'il y a des années où ils ont eu tant qu'apostrophe, mais quand il fait beau, c'est magnifique.
Voilà. Et du coup, quand j'ai pris le départ, j'ai dit de toute façon, le but, puisque mon but ultime de cette année, c'était quand même le marathon de Paris, j'ai dit, je vais pas me, je vais pas tenter le diable. Si vraiment je suis mal, j'arrête, quoi. Et j'ai au 33e, je sentais que je vacillais à chaque pas dans les montées. J'ai dit, c'est bon, je suis en hypoglycémie, j'arrête. Voilà. Donc j'ai coupé court et puis bon j'avais le Cerfil qui était derrière moi à peu près assez loin mais pas loin quoi dans l'ensemble donc j'ai dit bon mais c'est pas la peine je vais pas rester sur le carreau je vais être raisonnable pour une fois.
C'est une déception ou enfin tu te dis bon bah, finalement c'était
non,
j'ai essayé
c'est
quoi
expérience. C'est une expérience de plus. Des fois, il faut savoir dire stop. Hein. Enfin, c'est pas un échec. C'est permettre de relativiser les choses. Hein. Moi, je suis pas là que pour la performance. Je suis là pour prendre du plaisir avant tout. Donc, quand il y a plus de plaisir, il vaut mieux arrêter, quoi.
En fait, ce que j'allais te dire, c'est parce que je sais pas combien tu fais de kilomètres dans l'année, je sais pas si tu le calcules ou quoi que ce soit en fait.
Oh, ben il y a l'application Strava qui permet de savoir à peu près combien de kilomètres on fait, mais sur les gros événements, enfin comme l'année de l'ultramarin, j'étais à 3500 kilomètres dans l'année, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est entre 2000 et 2005 par an.
Ouais.
À peu près 60 kilomètres par semaine en fait, en temps normal. Et quand il y a une grosse préparation, on arrive quand même à 350 km dans le mois, quoi.
Oui,
à peu près.
Oui, ce qui n'est pas un volume. Enfin, tu me dis 60 km, même 350, ça ne fait pas un volume exceptionnel, on va dire, par rapport à certains qui annoncent faire plus de 100 km par semaine, etc. Enfin, je veux dire, pour préparer ça.
Oui, mais après, il faut savoir le corps, il faut que le corps il puisse récupérer aussi. Enfin, moi, j'ai fait des préparations costauds sur le marathon de Paris les premières années. Je les tenais pas quoi, parce que le corps il dit stop hein, au bout d'un moment. Hein. Puis bon, j'ai quand même 54 ans quoi. Alors je sais que j'ai des copains qui ont plus de 60 ans et qui courent des marathons en moins de 3 heures, hein, voire 3h30. Hein, mais moi, j'en suis pas là.
Mais alors, tu vois, c'est une question que je t'ai pas posée parce que tu m'as dit, tu t'es mis à courir en quoi? 2012, tu m'as dit remis à courir?
En 2012, je me suis remis à courir, en fait. Parce que j'ai fait 20 ans d'inactivité sportive suite à un burn-out sportif. J'ai fait 10 ans de triathlon à niveau national et où j'avais pas de vie sociale, en fait. Hein. Je bouffais triathlon matin, midi et soir. Et puis à 25 ans, la tête elle a dit stop.
D'accord.
Voilà. Et donc pendant 20 ans, j'ai dû de but en blanc, vraiment du jour au lendemain, plus de sport du tout.
Ouais, t'as tout rangé, t'as abandonné
tout
le sport.
J'ai lu le vélo. Bon, le vélo, ça fait un moment que je voulais plus en faire parce que j'ai des copains qui sont morts en vélo, qui se sont fait renverser par des voitures. Donc, j'avais plus vraiment la motivation pour aller déjà m'entraîner en vélo. Et puis, du coup, rentrant dans la vie active, j'étais moins assidu aux entraînements et quand je m'inscrivais sur les courses, j'étais à la ramasse, quoi. Et puis donc du coup le plaisir n'était plus là.
Et alors, qu'est-ce qui fait que tu reviens après, 20 ans après, tu te remets au sport?
Eh ben, c'est en partie grâce à une personne qui m'a dit, bah tiens, moi je cours, viens. C'était mon beau-frère là qui courait, et puis bon, je me suis remis à courir petit à petit, tout seul, sur les chemins forestiers du coin. Et puis après, ben hop, j'ai remis le pied dans l'engrenage, hein, et au fur et à mesure, et ben les distances, le niveau n'est plus le même, mais on se maintient. C'est pour moi aussi se maintenir en forme, hein.
J'imagine, de toute façon, après la philosophie entre l'époque où tu as 20 ans et quelques, et tu es vraiment au niveau national, et puis là où tu cours, tu le dis pour le plaisir, c'est vraiment une
Ouais.
philosophie totalement différente en fait.
Oui. Après, bon, j'essaye de faire un chrono, mais si j'y arrive pas, je me prends pas la tête, hein. C'est comment t'expliquer? C'est pas primordial, le chrono. Voilà. C'est le plaisir avant tout.
C'est ce que tu dis au départ de la course, tu dis, allez, je dois me faire plaisir aujourd'hui.
Alors, à Paris, je pense que je vais plutôt dire, il faut que j'arrive à faire mon chrono, mais sinon les autres courses, oui, la semaine d'après, je vais au marathon de Chappie, où là, c'est vraiment, ce sera vraiment le plaisir de courir avec les amis et de faire la fête déguisée, pendant 42 km.
Pourquoi tu t'es mis la pression sur le marathon de Paris, sur le temps? C'est que t'as fait une prépa spécifique?
J'ai fait une préparation spécifique en 3h30, pour 3h30. Et bon, comme ça fait un moment que j'ai pas dépassé, je suis pas descendu sous les 4 heures, ben je me pose un petit peu la question. Mais j'avais un partenaire de club qui fait le marathon de Paris aussi, donc on a essayé de faire nos sorties ensemble. Et là, on a la dernière sortie de mardi, et ben, était un peu concluante puisqu'on a fait 2 kilomètres allure marathon après à peu près 40 minutes d'échauffement, et on tenait, on a même dépassé, on était passé sous les 5 minutes au kilo, en aisance, tout en aisance, quoi, en aisance respiratoire et tout. Donc ça conforte l'idée qu'on peut le faire, voilà.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas en tête, 3:30, c'est 5 minutes au kilomètre, tout le
Voilà.
long, hein, c'est ça. Hein.
Pendant 42 km.
Ouais. Bah, c'est exactement le temps que je m'étais fixé au départ, moi, sur mon marathon, je m'étais fixé là-dessus. Bon, j'ai pris un mur, donc je vais pas te demander si tu connais le mur, si tu l'as, combien de fois tu l'as pris, mais c'est une sensation que tu as connue.
Oui, on a tous connu ça plus ou moins, hein. Après, il arrive plus vite que pour certains, plus vite que d'autres. Là, ben justement, c'était au marathon de Paris où j'ai couru trop vite au premier semi-marathon, parce que j'étais sur une base, enfin j'étais dans le sas des 3h45, et je me suis arr... enfin, quand on... je suis retourné sur Bastille, donc vers le 21e kilomètre, ben j'étais dans le sas des 3h15, tu vois. Donc et puis donc, eh ben, dès que j'ai pris les quais de Seine, eh ben j'ai pris un grand coup de bambou dans la gueule.
Attends, t'es parti dans le sas 3h45 et t'as rattrapé le 3h15?
Ouais. Donc j'étais parti vraiment trop trop vite.
Ah ouais, ouais, non.
Ben, je m'en suis pas rendu compte, en fait, hein. C'est quand on regardait les photos que ma femme faisait sur le parcours, elle m'a dit, mais t'es parti comme une fusée, et voilà, quoi.
Ouais,
Donc
c'est
ça
impressionnant,
arrive,
hein.
ça arrive. Ouais, mais je m'en ben, des fois, c'est un peu ma marque de fabrique. Tout le monde me dit, t'as fait ton fifi encore une fois. Je suis parti trop vite. Et puis, ça m'est arrivé aussi sur le 100 km de Millau, où je me suis enflammé. J'avais dit que je partais avec un copain, qu'on restait ensemble. Et puis, au fur et à mesure, les jambes tournaient bien. Et puis, au 42e, eh ben, rideau. Voilà. Donc, c'est un peu ma marque de fabrique, où je pars un peu trop vite à chaque fois. Voilà.
Ouais, puis alors, il faut le dire, c'est qu'en plus, c'est quand
Après,
on a fait une prépa.
il y a l'engouement aussi des gens, enfin la motivation des gens autour. Donc on se sent un peu plus poussé des ailes, et puis pliance les crânes, quoi.
Ouais, et puis sur la prépa, en plus, t'as fait une prépa qui est des fois qui est vraiment spécifique. En plus, j'imagine pour le 100 km,
ouais, ouais.
Vraiment une prépa spécifique. Donc, t'as les jambes qui sont bien, t'es en forme, t'as soigné la diététique, bien sûr, j'imagine.
Non, je suis plus comme ça. Non, parce que en fait, justement, quand je faisais du triathlon, j'étais vraiment basé sur la diététique et l'entraînement. Et non, je veux plus rentrer dans ces travers-là. Je préfère profiter de la vie, hein, quand même. Hein.
Ouais, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je suis sur ton compte Instagram, je vois ta dernière photo où t'as un burger.
Et ouais. Ouais. Bon, après, il faut faire plaisir aussi. Non, je suis plus. Alors, c'est sûr que j'essaye de manger moins de viande rouge que les précédents jours de la compétition, mais par contre, genre, je mange de la charcuterie, je mange de la pizza, je mange un peu de tout. Hein. Il faut se faire plaisir. Hein. Voilà.
T'as des gris-gris, des habitudes, parce que des petits trucs, ou de la superstition, je sais pas si c'est superstitieux d'ailleurs, mais des petits trucs, des habitudes, on va dire, avant de prendre les départs des marathons.
Ouais, ben, la salle des chaussures, hein, de s'y reprendre à deux fois, ben généralement, de toute façon, quand on se chausse et qu'on se lasse les chaussures, pour moi, quand il faut marcher un petit peu pour que le pied se mette dans la chaussure correctement, même si on utilise la chaussure depuis un petit moment, hein, parce qu'on peut pas, faut pas courir un marathon avec des chaussures neuves. Mais moi, je resserre les lacets dans le sas de départ, par exemple. Hein. Je bois ma petite boisson énergétique avant. Au petit déjeuner, ben j'ai quand même mon gâteau sport. Hein. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui te permettent de vraiment dans le bain, quoi, voilà.
Sur les courses comme ça, sur les marathons, tu t'alimentes, t'as des stratégies d'alimentation, des trucs, tu te dis, bon, sachez que ça marche.
Alors, moi, je prends pas les ravitaillements les ravitaillements solides qui sont sur les courses. Je me prends une ou deux pâtes de fruits, enfin, voire trois pâtes de fruits dans une ceinture. Et après, tous les 5 kilomètres, je prends une bouteille d'eau que je garde et que je jette après dans la poubelle juste avant de prendre le ravito suivant. Voilà. C'est eau et pâte de fruits. Mais rien de, je prends pas du tout de gel. Comme on dirait dans l'ancienne, on avait que de l'eau et du sucre. Hein, il y a une trentaine d'années. Hein, sur les courses, hein. Quelle que soit la course, hein, on avait que de l'eau et du sucre, de temps en temps des grains de raisin, mais là, je prends du sucre rapide, donc la pâte de fruits et de l'eau, voilà.
Oui, et donc c'est vrai que tu gardes la bouteille, parce que comme il y a un ravito tous les 5 km, c'est-à-dire pendant 5,
voilà.
Tu as toujours une bouteille à la main finalement au bout d'un moment.
J'ai une bouteille à la main pendant les, oui, bah, à chaque fois, oui. Je la jette juste avant le ravitaillement d'après. Et si elle est vide, c'est sûr que j'essaye de trouver une poubelle pour la jeter. Ça sert à rien que je la garde vide. Mais généralement, je garde une bouteille à la main. Ouais.
Sur on parlait tout à l'heure des conseils comme ça, etc. Tu dis à quelqu'un qui court un marathon comme ça, son premier, c'est surtout, faut faire attention à quoi, à pas trop manger. Boire régulièrement plutôt que...
Faut boire régulièrement. Boire régulièrement et prendre un peu de sucré ou du salé. Bon, sur les marathons, il n'y a pas beaucoup de salé, mais boire régulièrement, c'est primordial. Il y en a qui disent qu'il faut boire toutes les 15 minutes. Hein, d'autres, c'est tous les... Enfin, il faut boire par petites gorgées déjà, c'est sûr. Faut pas boire des litres d'eau à chaque ravitaillement. C'est des petites gorgées. C'est pour ça que je garde la bouteille dans la main et que je bois régulièrement par petites gorgées.
J'ai une autre question.
Pour éviter les ballonnements, que l'eau ballotte dans l'estomac. Quoi, hein.
Ouais, qui est très désagréable en plus. Et puis,
Ouais.
comme tu disais, en plus avec l'eau gazeuse, c'est encore pire. J'ai une petite question sur le, parce que, enfin, avec tous les marathons que t'as fait, t'as l'expérience, etc. Moi, il y a un truc qui m'avait stressé, c'était d'arriver à l'heure dans le sas, de trouver la porte du sas, etc. Surtout à Paris, où c'est
Ouais.
grand, il y a du monde partout, etc. T'es toujours stressé toi aussi de avant ces moments-là, où t'as des petites stratégies pour être tranquille, arriver
Ah ben
tranquille,
non, là,
etc.
je me lève relativement de bonne heure quand il y a des courses, enfin, ça, des grands événements. Je me lève assez relativement de bonne heure pour être prêt. Ça m'est arrivé d'être, par exemple, au marathon de Paris où j'étais sur les Champs-Élysées, il n'y avait personne, hein. J'étais dans les sas, il n'y avait pas encore les barrières des sas, il y avait, enfin, voilà. Je préfère être en avance plutôt qu'en retard et être speed pour, voilà, être speed.
Mais c'est vrai que c'est. Moi, c'était ma hantise de dire, mais est-ce que je vais arriver à rentrer dans le sas au bon moment? À quelle heure ils vont fermer? Par où on passe? Etc. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé aux 10 km une année à Paris où j'avais pas bien repéré, tu sais, sur le plan par où il fallait passer, etc. C'était un peu le bordel. Donc, il faut le dire, hein, sur des courses comme Paris, des fois, elle est longue, hein, l'avenue, hein, pour arriver à trouver le bon
Ouais, elle est
sas.
longue, mais bon, il y a les entrées des deux côtés, donc ça permet quand même de suivant quand on sort du métro, on sait que enfin on peut aller d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc et puis redescendre. En règle générale, moi je sors à la place de l'Étoile et puis je redescends les champs d'un côté ou de l'autre pour rentrer dans le sas.
Ouais. Alors en plus, de toute façon, il suffit de suivre tous ceux qui sont habillés en tenue de coureur, parce que dans le métro, c'est drôle le matin. On voit des gens, on voit que des coureurs, hein, le dimanche matin avant la
Ouais.
course, hein.
Ah oui. Ça sent aussi le camp, ça sent pas mal de ça sent pas mal de choses. C'est marrant. Et puis en rentrant aussi, ça sent autre chose. Mais ça sent plus le camp, ça sent autre chose. Ça sent la sueur, par contre.
C'est sûr. Tiens, on disait t'arrives très tôt. Tu fais quoi alors dans le sas quand t'arrives très tôt comme ça? Comment tu parce que enfin pour arriver avant que les barrières et tout, c'est que t'étais là quoi 2 heures avant le départ, pas loin.
Oui, mais bon, c'était une année. Après, le reste du temps, j'arrive pour. Généralement, j'étais toujours dans le sens des 3h45, donc j'arrive quoi dans les 20 minutes avant la fermeture du sas. Hein, et bon, on sait très bien que bon, il y a pas beaucoup d'endroits pour uriner. Enfin, donc il y a même, enfin, ils ont mis en place des trucs, mais bon, il y a toujours la queue, quoi. Donc je rentre au dernier mot, enfin dans les derniers, dans le sas. Hein.
Tu t'échauffes avant un
Maintenant,
marathon?
là oui, je vais m'échauffer. Là, cette année, je vais m'échauffer pendant le marathon. Oui, pour le marathon, je vais m'échauffer. Ouais. Parce que bon, là, il va faire froid le matin, donc il prévoit 6 degrés le matin, et donc là, faut pas partir à froid, quoi. Faut essayer de s'échauffer un petit peu, au moins 10 à 15 minutes. Hein.
Tiens, en parlant de chaleur, c'est quoi ta technique, toi, pour pas prendre froid avant? T'amènes un vieux pull que tu jettes, ta technique du sac plastique, c'est quoi ton truc?
Alors, ben, la plupart du temps, c'est la technique du sac plastique, mais bon, là, ben, j'ai prévu de courir quand même en short dimanche. J'aurai peut-être les manchons de compression sur les mollets. Je ne sais pas encore si je les mets ou pas. Et par contre, eh ben, j'aurai les manchons et les gants, les manchettes et les gants dimanche pour commencer. J'avais gardé un poncho que j'avais eu en 2018, et ben je vais le mettre, et comme ça, ben je le mettrai après dans une des poubelles adjacentes des Champs-Élysées.
Ouais, la fameuse technique du grand sac poubelle dans lequel on rentre, on fait des trous pour
Voilà.
passer la tête. Elle est pas très esthétique. On a tous notre photo comme ça au départ, je crois.
Ouais, mais bon, c'est ce qui garde le plus la chaleur, quoi. Parce que bon, mettre un sweat qu'on doit, enfin un vêtement qu'on doit enlever et qu'on doit jeter le long du, le, enfin qu'on doit jeter, bon, c'est, enfin moi je trouve pas ça bien. Mais bon après, Moi, le mieux, c'était le sac plastique. Ça prend pas de place, ça prend pas de place. On peut le mettre en boule et puis le jeter. Alors, c'est sûr que bon, des fois, les gens, ils le jettent juste à côté d'eux. Et nous, quand on passe derrière, eh ben, on se les prend dans les pieds, quoi. Mais bon, moi, j'essaye de les mettre vraiment sur le côté, de le jeter sur le côté.
Oui, alors surtout qu'en plus, faut le dire, c'est qu'au marathon de Paris, il y a des grandes, c'est même pas des poubelles, c'est des grands réceptacles dans lesquels tout le monde peut jeter les choses. Pour ceux qui ont des t-shirts, ils peuvent les mettre là où c'est la récupération pour les associations. Donc, il n'y a pas de raison que ça traîne par terre. Après, c'est vrai qu'il y en a qui peut-être pas volontairement d'ailleurs, on peut dire, hein. C'est pas impossible. Mais faut éviter de se prendre les pattes au départ. Tu disais, tiens, parce que ça m'intéresse pour revenir là-dessus, toi, ta marque de fabrique, c'est de partir vite en fait. T'as pas essayé de trouver des techniques pour éviter ça ou c'est C'est en
Ben,
toi.
si, mais c'est un peu inné en moi, quoi. Donc, bon, là, je vais essayer quand même de partir sur les bases que je m'étais fixées. Donc, essayer de faire peut-être au départ 5-10 et puis augmenter la distance quand je serai sur le quai de Rivoli, enfin, sur le Rivoli et la place Vendôme. Et l'avantage que j'ai, c'est que je connais le parcours, du coup, puisqu'il a été modifié, ben, en 2019, puisque maintenant on passe la place Vendôme et on passe autour de l'Opéra Garnier pour revenir un peu plus loin sur la rue de Rivoli. Donc, ben, ça permet d'avoir des points de repère sur les temps de passage, quoi. Donc, c'est un des avantages d'avoir couru plusieurs fois le marathon de Paris.
Ouais, est-ce que toi aussi tu as une vision du bois de Boulogne un peu difficile?
Alors, eh ben, écoute, depuis ils l'ont modifié, donc là, en 2019, je trouvais moins long que les premières années où on longeait l'hippodrome et on avait des longues lignes droites sur le bois de Boulogne. Et là, ça m'a paru moins long parce qu'on a fait des tours et des, enfin, on tournait
Ouais, c'est
à
ça.
droite ou à gauche et ça m'a pas paru long en 2019.
Ouais, c'est que j'étais vraiment cramé, moi, en fait. C'est pour ça qu'il m'a paru extrêmement long. Et avec mon invitée précédente, on en parlait, elle aussi, elle avait eu cette sensation. Et puis c'est vrai que c'est une drôle d'ambiance parce qu'il y a quand même, moi, j'ai des souvenirs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très bien, hein, qui sont assis, qui sont un peu cramés, etc., quoi. Hein.
En 2019, oui, il y a eu pas mal de dégâts sur ces avenues-là. Je m'en souviens parce que bon, il y avait quelques ambulances. On n'en parle pas assez aussi parce que bon, finalement, il y en a quand même eu en 2019. J'avais vu qu'il y avait eu une personne au tout début du marathon qui avait fait un infarctus, qui a été pris à temps et qui a été sauvée. Et par contre, il y a eu deux autres personnes qui elles sont décédées, quoi.
Et tu vois, c'était une question.
Notamment une du côté du bois de Boulogne.
Et oui, et c'était une question que je m'étais posée parce que moi, quand je traversais le bois de Boulogne, j'étais passé avec les ambulances qui étaient à toute vitesse, des bâches blanches sur le bord de la route, ils cachaient tout, etc. Et j'avais jamais le fin mot, tu sais, de savoir ce qui s'était réellement passé, etc. Mais ça avait glacé le sang de tout le monde à ce moment-là, en fait, quand on était passé. Parce qu'il faut, c'est vrai que ça fait partie aussi de la réalité des courses, hein.
Oui. Mais pas forcément que sur marathon, hein. Ça arrive aussi sur les 20 km de Paris, ça arrive sur beaucoup de courses, hein, même des 10 km, hein. Je me souviens que sur le marathon de Nice-Cannes, il y avait quelqu'un qui était en relais, justement, qui faisait le premier relais, qui, une fois qu'il a passé le relais juste avant le Cap d'Antibes, là, au 21e, eh ben, il s'est effondré, quoi. Et pas forcément des personnes qui avaient eu des alertes, hein. Donc, par moment, enfin, quand on donne tout, eh ben, ça peut arriver, quoi. Voilà.
Voilà. Bon, on va
Mais
changer.
bon, on va changer de conversation parce que c'est quand même plus important de courir et de prendre du plaisir.
Oui, ce que j'allais dire, on va changer de sujet. En plus, je voulais parler de tes engagements parce que quand on regarde les photos, quand on regarde ce que tu fais, t'as plein de. Tu cours pour des causes ou en tout cas tu soutiens. Alors tu parlais de t'es poussé, tu es parti d'une équipe pour pousser une Joëlette.
Oui, pour pousser. Oui.
T'as des causes comme ça que tu soutiens particulièrement, en fait?
Eh ben là, j'ai découvert là récemment pour une personne aussi handicapée, donc c'est les Anges de Romane. Après, je soutiens des causes comme contre le diabète, contre la chirurgie cardiaque. C'est au bonheur la chance, c'est-à-dire que il y a une course qui permet de soutenir une cause et que je suis disponible, et ben j'y vais quoi. Voilà, je m'inscris et puis j'y vais quoi.
On disait que tu faisais, c'était ton 41e marathon, tu fais aussi des courses, donc tu as parlé de l'ultra, hein. Tu fais des courses plus courtes aussi?
Ah ben oui, je fais des courses de 10 km, hein, je fais du 20 km, des petites courses nature de 10, 12, 13 km hein, aussi. La dernière course était sur... pour les Anges de Romane, là, au lac du Crès, à côté de Montpellier, où c'était une course nocturne. On partait pour 12 kilomètres. Voilà. Il y avait une 6 kilomètres, mais bon, j'ai préféré faire 12 kilomètres parce que 6 kilomètres, c'est quand même très rapide, ça part très vite et j'avais peur de me blesser, donc j'ai préféré faire la plus longue distance de l'événement.
Ouais, puis quand tu prépares un marathon, le 10, finalement, ça fait une sortie intéressante.
Ouais, ben là j'ai couru assez rapidement jusqu'au 6, 7e kilomètre, hein, et puis dès que la nuit est tombée, même avec la frontale, je voulais pas me blesser, me tourner une cheville. Hop, j'ai ralenti le rythme, et puis j'ai passé les 13 kilomètres, c'était les 12 ou 13 kilomètres, j'ai passé en 1h10. Bon, ça a été. Je me suis pas mis trop dans le rouge, et ça m'a permis de faire une bonne action aussi.
Oui, mais ça fait partie aussi des motivations qui sont importantes. Hein. Il y a un truc, un sujet dont on n'a pas parlé, puis en plus c'est comme ça qu'au début je t'ai contacté, on m'a recommandé. C'était le sujet des meneurs d'allure, parce que toi qui as fait plein de marathons, tu as dû voir des meneurs d'allure, tu l'as été meneur d'allure?
Non, 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 j'ai pas été. Enfin, j'ai été meneur d'allure, mais pas officiel. Sur le marathon de Barcelone, j'ai amené des collègues en 4 heures. Mais bon, je sais pas si je recommencerai. Je suis pas assez boudoué pour assez régulier pour être meneur d'allure, je pense. Je suis pas encore très trop régulier. Je fais des à-coups et c'est pas très bon pour ceux qui suivent.
Ouais, c'est ce que j'ai à te dire, parce que surtout que si tu prends un départ rapide et derrière ils essaient de galoper et qu'ensuite ils sont un peu embêtés. T'en as suivi des meilleurs d'allure dans des courses, dans des marathons quand tu les fais, toi?
Ben écoute, non, parce que je trouve que des attroupements autour d'une seule et même personne, on piétine plus qu'autre chose en fait. Moi, je préfère courir assez loin d'eux. Voire devant pour éviter tout cet attroupement autour de l'agglutinement des personnes autour du meneur d'allure. Alors certes, ça permet de discuter avec de discuter, mais on n'est pas dans le même rythme en fait. La foulée n'est pas la même en fait. On n'a pas la même foulée. Il y en a qui ont des foulées rasantes, d'autres un peu qui montent. Non, ça me plaît pas de rester dans un groupe comme ça.
Et oui, et puis c'est vrai, t'as raison, hein, ça fait un espèce de petit peloton, un petit rassemblement comme ça, là. Des fois, on prend un pied dans du voisin, ou, enfin, c'est pas très, moi, je l'avais testé sur le marathon de Paris, justement. Puis, je m'étais dit, j'avais discuté avec un meneur d'allure et il avait expliqué sa stratégie. Je m'étais dit, ah, elle est pas mal, sa stratégie. Et justement, pour arriver au fameux 3h30. Et juste au moment où, au lieu de partir, il s'est retrouvé de l'autre côté de la barrière. Alors, je l'ai perdu.
Ouais.
Et j'en ai chopé un qui, lui, par contre, alors je sais pas pourquoi, il avait pas la régularité, tu sais, je sais pas comment il a couru. Mais par contre, c'est vrai que c'était désagréable au bout d'un moment, j'avais fini par le lâcher parce qu'il y avait tout l'attroupement et qu'il y a des moments, tout simplement, c'est qu'on a l'impression de pas pouvoir courir comme on a l'habitude de courir.
Ouais, c'est ça. Moi, on n'a pas la même foulée parce qu'on. Il faut s'écarter et rester à 2-3 mètres du groupe, quoi. Mais pour avoir sa foulée correcte, quoi. sa foulée qu'on a d'habitude à l'entraînement. Voilà, ça m'est arrivé sur le marathon de Salon de Provence où j'ai dit bon, mais je vais rester dans le meneur, avec le meneur d'allure, mais bon, c'était impossible. Quoi. J'ai dû doubler assez vite parce que ça me gavait quoi. Ça m'énerve. Enfin, j'avais pas envie de rester dans un groupe où en fait les gens ils se mettent en rangée. Et en plus, ça empêche les gens de doubler ou d'avoir son rythme. Quoi. On a du mal à les doubler, quoi, en fait, quand ça se rétrécit.
Oui, alors tiens, il y a un autre sujet que je voulais aborder parce que je suis toujours sur tes photos. J'ai vu que tu avais une rubrique plugging sur ton, ouais. compte. J'ai même vu que tu avais fait quoi? T'as participé à des teams de ramasseurs comme ça, des
oui,
déchets
oui,
dans des
ben
courses?
Justement, j'étais au 20 km de Paris. J'avais été pris avec la René Cotim de Nicolas Lemonnier pour ramasser les bouteilles qui traînaient par terre, les bouteilles de ravitaillement qui traînaient, qui étaient jetées par les coureurs et il fallait les ramasser pour les mettre dans les poubelles appropriées. Après, bon, le plugging, eh ben, j'en fais régulièrement autour de chez moi quand je pars courir. Je prends un sac et puis je ramasse un peu tout ce qui traîne, c'est-à-dire les canettes qui sont dans les fossés. Bon, je ramasse pas les papiers, par contre, ou les mouchoirs, mais je ramasse les canettes ou de en verre ou en alu. Et que je remets après, que je trie et que je mets après moi dans le conteneur de tri. Quoi.
Ça me rappelle l'épisode avec le Taz. On avait parlé aussi de ce sujet où il a le même réflexe. Hein, il a toujours un petit bout de sac, etc. où il prend ça aussi. Mmh. Et c'est vrai que c'est énervant en plus sur les chemins. Moi aussi, quand je ramasse je suis comme toi, hein, tout ce qui est mouchoir, etc. Non, mais quand je vois des gels traîner, des bouteilles ou des choses comme ça, et ce qui m'énerve le plus, mais en plus t'es dans une région où t'as le problème, moi c'est les cartouches des chasseurs qui m'énervent le plus.
Oui, après bon, je ferai plus cas parce que là je suis plus en ce moment, je suis plus basé sur la route, mais c'est vrai que ils devraient les ramasser quoi. Enfin, les prendre avec eux, puisqu'ils les ont amenés, ils les ont amenés pleines. Pourquoi ils les jettent? Ils peuvent les ramasser et puis les mettre dans leur sac. Hein. Mais bon, après, on refait pas l'éducation des gens. Hein.
Non, on va pas se battre avec eux non plus. Hein.
Non. Surtout qu'ils nous embêtent un peu quand on fait des trails, parce qu'ils nous débalisent les trails officiels. Là, c'est arrivé pas plus tard que le week-end dernier où j'étais bénévole. Et ils nous ont débalisé le parcours qu'on avait balisé la veille, quoi. Donc bon, on va pas se battre avec eux, mais bon, ils font partie de l'environnement, voilà.
Ouais, mais je connais même un organisateur trail qui a mis des caméras en face de ses panneaux pour vérifier qui c'était qui les enlevait, parce qu'une fois ils auraient débalisé toute la course ou presque, hein, donc ça peut arriver, ouais. Ces histoires-là. Alors tout à l'heure t'avais parlé, tiens, d'un truc dont on n'a pas reparlé finalement, c'est les comment ça s'appelle, courir le monde. En fait, t'as commencé à en parler un petit peu. C'est quoi le principe?
Ah ben le principe, c'est que on se rencontre, c'est des gens de tout milieu et de tout milieu professionnel. Et quand on va sur des courses, on se réunit, enfin, il y a un site où on recense donc les marathons. On dit, tiens, tel jour, je vais à tel marathon. S'il y a des gens qui veulent se greffer, on fait un rendez-vous pour la photo de départ, ou même avant on fait un repas la veille, on fait un repas pré-marathon et un repas post-marathon après. On se réunit, on se rencontre sur des événements quoi, en fait, et ça nous permet aussi de temps en temps, ben, quand on va loin ou qu'on puisse se connaître des lieux, ben, ou un restaurant ou un lieu d'hébergement sympa quoi.
Donc je dis, hein, le site c'est courirlemonde.org, hein, c'est ça, hein, donc c'est une communauté,
c'est
après
exact.
On peut s'inscrire et
c'est une communauté, on peut s'inscrire Et ça permet de voir, après, il y a des forums, il y a des récits de courses, que même pas que des marathons, hein, ça peut être des récits de trail, ça peut être des récits de courses, de petites courses, hein, aussi, hein. Là, cette année, j'ai fait je suis pas très narrateur, donc j'en ai fait un. Sur le trail en terre d'oc que j'ai fait avec un ami en 50 km, qui m'a il m'a en fait c'est mon co le collègue qui m'a dit bah tiens ta punition puisque c'est moi qui t'ai poussé jusqu'au bout et ben tu vas faire tu feras le compte rendu, voilà, le compte rendu de course. Donc ben je l'ai fait sur le ton humoristique, hein, et puis voilà quoi. Donc après on le publie sur le site de courir le monde, et puis ça permet aux gens de dire, ah ben tiens, oui, ça peut être sympa de le faire l'année prochaine, ou il y a dans 2 ans. Donc ça donne envie aux gens de s'inscrire soit sur le marathon, sur un marathon, ou sur une course, quoi.
Alors étonnamment, dis donc, je vois pas le marathon de Paris dans les rendez-vous.
Ah. Ben enfin, moi j'y vais rarement, hein, en fait, sur le site, parce que bon, il a changé de formule, et puis puis après j'ai pas trop le temps non plus, j'avoue.
Ouais. Non, mais si j'étais en train
J'avoue.
de regarder par curiosité les événements, et c'est vrai qu'il y a tous les grands crus, les Chablis, tu vois, tous ceux que tu m'as cités tout à l'heure, là, ils y sont tous présents. Tiens, il y a La Rochelle aussi qui est le.
Ouais, La Rochelle, il y en a un, mais bon, là, je vais à Deauville, moi, cette année, donc je pourrais pas faire le centième un centenaire de marathon, mais bon, je pourrais pas y être.
Oui, mais Deauville, je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a des auditeurs du podcast et des membres de la communauté qui ont mis Deauville, en tout cas, à leur programme. Donc ça, je le sais. Donc, bah, peut-être que tu les croiseras d'ailleurs. Il y a moyen de te reconnaître d'ailleurs si on te croise, par curiosité.
Ah ben écoute, sur certaines courses, je suis déguisé en Tintin, parce que bon, c'est ma marque de, enfin c'est mon personnage fétiche. Donc je suis déguisé en Tintin la plupart du temps, quoi, sur les courses festives, et sur certaines courses où je ne cherche pas le chrono. À Paris, je ne serai pas déguisé en Tintin. Vous me cherchez pas, hein. Je
Oui.
serai habillé avec un t-shirt vert du groupe DS Green Runner de Schneider Electric.
C'est quoi? C'est qui t'ont invité ou c'est quoi? C'est
Ben oui, c'est eux qui m'ont invité à courir pour Schneider Electric.
D'ailleurs, alors c'est un truc que t'as dit, c'est que tu gagnes plein de dossards comme ça. Mais c'est que tu surveilles les
Oui.
courses, tu surveilles, il y a des concours et des choses comme ça en fait.
Il y a des concours, ben, sur Facebook, sur Instagram, et puis ben je joue. Comme dirait une certaine personne, tant que je gagne, je joue. Hein. Donc non, mais bon, c'est après ça. Il m'arrive de jouer, de gagner, et puis de pas pouvoir me libérer de mon, enfin de ma profession. Donc ben écoute, là, dans ces cas-là, et ben je donne le dossard aux amis, quoi. Je ferai profiter les amis du dossard que j'ai gagné.
Ouais. Est-ce qu'il y aura un dossard, tu vois, tu te dis il y a une course que tu aimerais faire et que t'as pas encore faite. Tu vois, est-ce qu'il y a une course pour toi qui est un peu qui
Oh
serait sympa?
non, honnêtement non. Pas je c'est ça me vient pas l'idée à l'esprit là. J'ai Non, ça me vient pas à l'esprit. Je fais les concours comme ça et je fais même des concours pas que pour des dossards, hein. Je fais des concours aussi pour des lampes frontales, pour des chaussures, pour les chaussures de course à pied, bien sûr, hein, pas les chaussures de ville, hein. Mais voilà quoi. Quand la chaussure me plaît, quand un équipement me plaît, ben je fais aussi le concours. Mais c'est pas spécialement que pour la course, que pour des dossards.
Que pour les deux, ça, ouais. Bon, il faut le dire en plus, hein, c'est qu'en chaussures, je sais pas si t'en gagnes souvent des paires de chaussures, mais avec 3 500 km
Non,
dans l'année.
j'en gagne pas beaucoup, non. J'en gagne pas beaucoup, mais bon, oui, j'utilise 4 paires de chaussures par an, à peu près, de
Oh,
running.
ouais, bah attends, et tu les fais durer quand même, hein?
Ah ben oui, à peu près 800 kilomètres. À partir de 800 kilomètres, je les mets plus en compétition, je les garde pour l'entraînement. Donc une paire de chaussures, elle peut durer. Là, je vais en donner pour le. Je monte deux paires au salon du running de Paris pour les mettre dans le pack d'Africa Run qui vont servir pour les qui vont partir en Afrique pour des gens qui voilà. En milieu associatif. Elles ont à peu près 1000, 1200 km. Mais elles sont encore bonnes. Enfin, elles sont pas déchirées ni rien. Mais pour moi, il n'y a plus d'amorti, mais ça peut servir encore à d'autres personnes.
Ouais, c'est ça. Après, moi, les miennes, j'en ai aussi à 1200 bornes, mais comme c'est celle de mon premier marathon, je les garde religieusement. Tu sais, je les ai.
Ah voilà, fétichiste, fétichiste.
Mais en fait, après, c'est vrai que c'est un truc parce que je me dis, avec le nombre de courses que tu as fait, tu dois avoir aussi un nombre de t-shirts de finishers qui doit être impressionnant.
Ah oui, j'en donne aussi souvent sur des courses où il y a une association qui fait qui s'occupe de récupérer les t-shirts pour les donner aux gens nécessiteux ou des gens qui des SDF aussi. C'est ton t-shirt me fait rêver. Et donc je leur donne des t-shirts. Je fais le tri des t-shirts que je veux plus, enfin qui sont encore bons, mais qui sont encore très très bons, parce que bon, je peux pas les mettre tous les jours non plus, parce que je dois en avoir, oui, je dois pouvoir en changer tous les jours. Tous les jours, je peux changer de t-shirt si je veux. Et donc du coup, ben, je fais le tri et puis je les donne quand je sais que l'association est sur l'événement, et ben je fais un lot et puis je les donne. Voilà.
Je mettrai les liens de toute façon parce que en même temps je les cherche. C'est vrai qu'on a
Ouais.
tous des piles de t-shirts. Puis enfin, moi, il y en a certains que j'aime bien, puis il y en a certains que j'aime pas du tout. Enfin, ou que
Ouais.
je remets jamais. Donc c'est vrai que c'est logique plutôt que de les garder ou de les jeter ou de les stocker pour rien de les partager. Donc je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés aussi qui ont
Ouais.
des stocks de t-shirts. Bon après les stocks de médailles, je sais pas, c'est peut-être pas pareil. Je sais pas si tu les collectionnes, si t'as une grosse boîte.
Oui, j'ai une grosse boîte pour l'instant. Bah, j'ai mon idée pour les mettre, mais il faut que les médailles de l'année, je les pends sur un présentoir. Et puis, une fois que l'année est terminée, bah, je les range dans une boîte. Mais bon, ça prend de la place au fur et à mesure. Mais bon, 41, c'est pas grave. C'est pas beaucoup par rapport à certains qui ont plus de 100 marathons, et j'ai même des amis qui ont plus de 500 marathons à leur actif, hein, donc ça fait quand même beaucoup de médailles.
Attends, 500 marathons, ils ont?
Oui, plus de 500. Et là, c'est donc le mari qui a plus de 500 et la femme qui est aussi, même, je crois que c'est, non, elle en a même 700, c'est Pascal Comte. Et sa femme qui a à peu près pareil, 500, 400 ou 500 marathons à leur actif. Mais parce qu'ils font des séries en Angleterre ou en Italie, où ils font 10 marathons en 10 jours ou 4 marathons en 4 jours. Il n'y a plus féru que moi. Voilà. Là, j'ai un collègue de Nancy qui en a cette année, qui a plus de 39 marathons là, déjà à son actif.
Sur l'année.
Sur cette année, oui. Eh ben, il sera à Paris, je crois, ou à Chablis. Non, je sais plus. Enfin, ben, il fait partie des coureurs le monde aussi. Il s'habille en Moïse la plupart du temps. On a chacun notre déguisement un peu fétiche aussi. Donc, oui, non, il y a des mordus. Il y a des mordus.
Non, mais ce qui est drôle en plus, c'est que on dit qu'il faudrait pas faire plus de 2 marathons, 3 marathons dans l'année, etc. Et en fait, je viens de tomber sur un article sur Pascal et Chantal Comte où ils racontent qu'eux aussi ils ont
C'est
commencé à faire
exact.
2, 3 marathons au départ et
Ouais.
qu'ils arrivent à en faire. Alors attends, 140 marathons en une année, ils ont fait.
Ouais. Ouais. Ben, ils sont très gentils et très très abordables en tout cas.
Écoute, j'ai bien envie de les avoir un jour parce que et puis ils sont pas, pour ceux qui, enfin, je sais pas, ils ont une soixantaine d'années en fait. Hein, c'est pas non plus, je sais pas depuis combien d'années ils courent comme ça, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de kilométrage. Alors à l'époque, ça disait plus de 15 000 kilomètres en marathon comme ça fait. Je sais pas comment ils s'entraînent. Enfin, en fait, enfin, finalement, leur courir un marathon, c'est presque l'entraînement dans ce niveau-là.
Ben c'est ça, c'est leur entraînement de la semaine, je pense. Mais bon, après, je sais pas comment ils s'entraînent, mais bon, mais bon, en tout cas, ils sont très 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 gentils. Et là, bon, on a tous un groupe très gentil en fait, hein, dans Courir le Monde, enfin, on sait d'où on vient et on sait. Après, on communique. Après, il y a des affinités plus qui se font plus que d'autres. Hein. Moi, je suis rentré dans le groupe par le biais d'un ami qui était dans le club où j'étais au village. Et donc, quand je me suis inscrit comme ça, je ne connaissais pas le groupe. Hein. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ça crée une émulation de dire, bah tiens, oui, ce marathon, il me plairait. Bah, tiens, si tu le fais l'année prochaine, eh bien, tiens, moi aussi, je m'inscris. Voilà. Et puis, on se retrouve comme ça à faire, justement, au lieu de faire un seul marathon dans l'année, ben, on en fait 4, 5, 10, 10 parce qu'on se retrouve et on s'éclate, quoi. Voilà. C'est un peu le revers de la médaille dans ce groupe, c'est que bon, on se motive à en faire plus.
Alors ça, c'est une question. Après, tu disais que tu avais quelqu'un du groupe qui allait devenir centenaire en marathon.
Ouais.
Ça serait un objectif pour toi de dire je voudrais en faire 50, 60, 100 ou des choses comme ça, ou finalement tu
Ah
t'en moques
oui,
un peu?
l'objectif, ouais, de rentrer dans le club fermé des 100 marathoniens, des centenaires de marathon, oui, c'était un peu le but à un moment donné, mais bon, là, après, avec le Covid, ça a freiné beaucoup de choses. Je voulais faire mon centenaire de marathon pour mes 60 ans, mais avec l'année écoulée sans course, enfin, sans course officielle, ça me ferait faire beaucoup de marathons sur les 6 prochaines années, quoi. Donc on va retrouver un peu de sérieux et puis peut-être à 65 ans ou 70 ans, je sais pas, on verra.
Alors, et de l'autre côté,
Mais
tu me dis ça, mais ça
le
fait 10
but, c'est
marathons par
d'arriver.
an.
Non, mais j'en ai 54, donc ça fait 6, c'est dans 6 ans, mais 60 ans.
Et bah oui, bah, il te reste quoi à faire 10 marathons par an à peu près pour y arriver?
Ouais, mais bon, ouais, ça fait 60, oui, c'est ça, oui, à peu près, ouais. Ouais, mais bon, je les récupère moins bien, hein,
Ouais,
quand
ce que
même.
j'allais te dire en fait, parce que et puis je regardais en fait, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais, on peut pas courir tous les jours, des choses comme ça, on peut pas faire ça. Puis quand tu vois que par exemple ils arrivent à faire 10 marathons en 10 jours, que toi tu me dis t'as fait 14 marathons dans une même année,
Oui.
comment tu récupères justement? C'est quoi ta stratégie de récupération après un marathon?
Ben, boire beaucoup, boire beaucoup le lendemain d'eau, enfin, se réhydrater, la réhydratation, et puis courroter peut-être 2, 3 jours après pour repartir après sur un autre, soit sur une autre course, soit sur une autre préparation, quoi. Mais bon, la préparation, quand on en fait beaucoup, on fait pas des préparations pour faire 3 heures, 3 h 30, hein. On prépare pas un marathon, enfin, tous les marathons de la même façon, en fait. Après, en conseil, enfin, je suis pas encore un expert, hein. Donc,
À 40 marathons, quand même, tu connais un peu le sujet.
ouais, mais fait, tous les marathons sont différents. Donc, après, ça peut arriver. Tu peux faire un marathon qui est hyper plat. Après, un marathon où il y a un tout petit peu de dénivelé, tu peux. Enfin, Il arrive qu'on puisse faire des marathons trail même. Donc, c'est complètement différent. Enfin, tous les marathons sont différents. Et on a tous, enfin, chaque marathon, j'ai un vécu différent, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, en fait.
Mais tu vois, c'est vrai, ce que tu dis sur la vitesse, c'est intéressant ce point-là, parce que j'étais en train de regarder la fiche de Pascal Comte, là, sur les, tu sais, où il y a tous les courses parcourues, etc. Et c'est vrai qu'il dit dans un article qu'il aurait aimé courir un marathon à une époque en 3 heures ou des choses comme ça. Mais finalement, quand on regarde les temps du marathon sur certains, c'est vrai que ce n'est pas des marathons qui sont courus tous en 3h30, en 4 heures ou des choses comme ça. Il y a des marathons courus en 5 heures, etc. C'est-à-dire beaucoup plus lentement pour justement arriver à enchaîner.
Ben oui, voilà, oui, c'est ça. Enfin, c'est le but. Enfin, quand j'ai commencé à faire de l'ultra, on court moins vite, mais on court plus longtemps. C'est de l'endurance fondamentale, en fait, hein. Parce que bon, ça permet de moins taper, enfin de moins taper, enfin de moins moins avoir, enfin, avoir des chocs, mais moins dur, moins fort, et ça permet de durer un peu plus longtemps. Après, bon, il y a certains qui ont une foulée rasante, d'autres qui ont une foulée avec la pointe des pieds, avec médio pied. On est tous des coureurs différents. Enfin, on court tous différemment. Moi, ça me rappelle la vidéo de la personne. Je sais pas, moi, je me rappelle plus du nom. Tu dois connaître. C'est la personne qui fait qui se filme avec différentes courses en disant la méthode kangourou, la méthode levée du pied en crapaud, la méthode je me rappelle plus de son nom. Il fait plein de vidéos sur la course à pied, celui qui prend le ravitaillement à la volée, qui s'asperge partout. Enfin bon, c'est marrant, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'après on a tous nos méthodes de course, et puis c'est vrai aussi, il faut le dire, hein, pour pouvoir enchaîner autant de courses, autant de kilomètres, il y a un moment donné, on peut pas courir toujours à pleine vitesse, courir vite, faire tous les trucs, etc. Je pense que la recommandation des 2-3 marathons d'ailleurs qui était donnée, c'était surtout aussi pour ceux qui faisaient la compétition, qui allaient vraiment sur les. Qui devait vraiment donner beaucoup, quoi. C'est vrai que il y a aussi un facteur vitesse qui joue. Et puis, je pense qu'on n'est pas tous égaux aussi sur la récup, en fait.
Ah oui, on n'est pas, oui, non, mais c'est sûr, on n'est pas tous égaux. On a peut-être, puis on a tous un poids différent, on a tous une constitution différente, hein, entre ceux qui ont des os légers et des os lourds. Enfin, après, il y a les muscles qui diffèrent, hein, les tendons. Après, il y a les antécédents familiaux, hein, aussi, hein, qui peuvent, les antécédents médicaux, hein, qui peuvent jouer, hein, aussi, hein. Donc, on est tous différents, on a tous une méthode différente de s'entraîner pour s'entraîner. Voilà, il y a autant de coureurs que de gens, enfin que de gens que de coureurs, quoi. Enfin, il y en a qui courent pour ça, pour s'entretenir, pour maintenir une forme. On n'est pas, tous les coureurs ne font pas de la compétition ou ne s'inscrivent pas sur des courses officielles. On a vu ça lors du premier confinement, hein. J'ai jamais vu autant de coureurs, moi, dans mon village.
Bah oui, mais c'était le seul moyen de sortir de ta maison, alors franchement.
Ouais. Ou alors promener le chien.
C'était le seul truc. Et ce qui était paradoxal, c'est que moi, c'est le moment où je me suis arrêté de courir. Tu sais, je regardais toujours, mais j'ai jamais vu courir autant de gens. Et moi, je courais pas. Je disais, je reste tranquillement à la maison parce que courir sur 1 km, ça me motivait pas. Puis j'ai dit, je reste à la maison. Mais c'est vrai. Après, c'était une moyen de sortir aussi, de s'aérer, de changer un petit peu aussi. Puis, premier confinement, il faisait tellement beau que tout le temps qu'on se dit, c'était finalement un climat idéal, quoi, pour aller courir. Donc, tant
Ah
mieux.
oui, non, mais tant mieux que ça a mis les gens au sport, hein. Mais bon, on en voit qu'un peu moins maintenant, hein.
Oui, un petit peu moins. Et puis là, maintenant qu'il va commencer à faire plus frais, je remarque aussi que j'en ai un petit peu moins sur mes chemins que d'habitude. Est-ce que tu as un objectif? On disait là, bon, l'objectif, passer les 100, etc. Tu dis courir T'avais ton objectif d'en faire 100 pour tes 60 ans, etc. Tu te vois courir comme ça, te dire... parce que j'ai un invité qui m'a dit, moi, mon objectif, c'est d'être un vieillard galopant, tu sais. Il se voit vieillir en disant être le plus en forme possible, le plus longtemps possible. C'est quelque chose que tu vois, toi aussi, tu te perçois comme ça un peu, en disant, je veux courir comme ça, maintenir cette forme le plus longtemps.
Tant que je pourrai courir, j'irai courir, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Après, le seul truc qui va m'empêcher de courir, c'est d'avoir un problème physique, hein, parce que bon, ça permet de s'aérer l'esprit, de se vider la tête. Enfin, le sport, c'est la vie, quoi.
Bah écoute, ouais. Je suis tellement d'accord avec toi, puis ça fait une tellement belle conclusion. C'était super sympa de discuter avec toi. Alors, c'est sûr que je sais pas comment. Alors, tu t'as dit, t'as mis un objectif de temps sur ce marathon, hein, donc je te souhaite d'y arriver. Hein,
Merci.
Ça va être un. Moi, je vais suivre ça et tout. Je t'ai demandé un ami sur ce travail pour suivre mm-hmm. tout ça. Si on veut t'encourager, tiens, s'il y en a qui ont des petites questions, alors on a dit que t'étais dans la fameuse communauté. Donc j'ai perdu le nom maintenant.
Courir le monde.
Tu l'as dit, on retrouve sur Strava. Hein, on trouve aussi sur Instagram. Mm-hmm. Ceux qui vont courir leur premier marathon, là, quand même, tu leur as dit, bon, faut prendre du plaisir, etc. T'aurais un truc, tu sais, pour ceux qui se sentent un peu stressés, etc., quand même, parce que ça a dû t'arriver, toi aussi, de mal dormir la nuit d'avant, tous ces trucs-là, là, non ?
Oui. Alors, il faut essayer de manger de bonne heure, moi, je pense, enfin, vers 19h, 20h. Et puis d'éteindre l'extinction des feux vers 21h30, 22h. Voilà, c'est l'idéal pour pouvoir après se lever et prendre un bon petit déjeuner avant d'aller dans le sas de départ.
Ouais, et moi l'autre conseil que je leur donnerais, c'est faire attention au salon du running la veille, de ne pas y griller toute l'énergie, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais...
De
griller ton énergie la veille au salon du running à parcourir dans tous les sens, tous les...
Ah oui, ben moi j'y monte le vendredi et le samedi, et de toute façon, c'est repos. C'est repos. C'est vrai qu'en plus, dans le salon, il fait chaud, donc on piétine et c'est vrai que ça peut bouffer de l'énergie, oui, c'est vrai. Mais bon, là, je pense qu'il y aura moins de monde cette année quand même. Il y aura moins de monde cette année parce qu'on est, je sais plus, d'après ce que j'ai vu, on est à peine 45 000 coureurs cette année, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Bon, après le salon du running, il n'y a pas que des coureurs qui y vont, mais je pense qu'on sera moins nombreux, il y aura moins de monde.
Bon, ben en tout cas, 45 000 runners, ça fait quand même un bon paquet de monde qui vont faire trembler les pavés parisiens ce week-end. Je te souhaite une belle fête, en tout cas, parce que c'est, comme tu l'as dit, hein, c'est une belle fête de courir un marathon.
Ah oui, je vais essayer de prendre quand même du plaisir, même si je vais essayer de faire un chrono, mais ce sera quand même du plaisir de retrouver la compétition officielle.
Il date de quand ton précédent marathon ?
Eh ben, le précédent marathon, j'ai fait le marathon du Grésivaudan cette année, donc au mois de juin.
Oh ben ça va, oui, c'est pas le premier de l'année, je veux dire, t'en as déjà fait un cette année.
Non, c'est pas le premier de l'année, j'en ai fait déjà un cette année, oui.
Voilà, bon. Eh ben écoute, en tout cas, je te souhaite une belle course, une belle fête, hein. Je te remercie beaucoup pour cette discussion, de voir un peu ta pratique, c'était super intéressant. Moi, je t'avoue, quand tu me dis que t'as 40 marathons, que c'est ton 41e, je suis extrêmement impressionné. J'avais discuté un jour avec quelqu'un qui m'a dit, bah moi, genre, j'ai commencé à en faire un, puis je me suis retrouvé à 40 sans trop m'en rendre compte. Et je lui ai dit, non, mais c'est pas possible.
Non, mais moi, enfin, l'année de mes 15 marathons, je m'en suis pas rendu compte non plus. ça s'est enchaîné comme ça. Hein. Mais bon, j'ai même fait un doublé samedi-dimanche en 2019. Hein. J'avais fait Chablis la veille et puis le marathon de Nevers le lendemain. Donc, tu vois, ça arrive aussi.
Ouais, bah écoute, c'est un bon enchaînement. Marathon de Nevers, donc j'avais eu l'organisateur, je l'ai eu en invité du podcast. Une belle course hein, qui se développe aussi. Mais je pense que t'avais fait le toit à l'époque où ça c'était pas sur circuit, enfin ça partait du circuit, mais ça arrivait en ville.
Alors Oui, ça arrivait en ville, ben, c'était l'année précédente, donc en 2019. Et l'année d'après, ben, j'ai fait sur le circuit aussi, oui. Où j'ai tourné, on a tourné sur le circuit de nuit.
Ouais. T'as trouvé ça sympa comme expérience?
Sur le circuit, ça peut être sympa, oui. C'était une expérience différente. Ben, ça m'a rappelé un peu le style des courses des courses horaires des 6 heures ou de 12 heures ou de 24 heures. Quand on tourne autour d'un stade ou un circuit d'un kilomètre et demi à peu près, à faire le plus possible. Donc, oui, ça m'a rappelé un peu cette ambiance-là, en fait, parce qu'on repasse toujours au même endroit.
Bah c'est vrai qu'en plus on n'a pas parlé de cette expérience des 24 heures, mais écoute, je te remercie beaucoup pour
Ben,
cette
moi
discussion.
aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. En chair et en os, comme j'ai pu rencontrer Hermano.
Et oui, parce que c'est Hermano qui m'a donné ton contact. Et puis tu sais, en plus, quand j'ai vu ton profil, j'ai eu un doute. J'ai vu un hashtag qui s'appelle Clermont Sport Endurance. Et je regarde le truc, je dis, mais attends, c'est quel Clermont? Et toi, t'es du Clermont du Sud. Et moi, je suis à
Oui.
Clermont-Ferrand.
Ah oui.
On n'est pas sur le même Clermont, mais je t'avoue que je passe pas très loin de cette zone-là très régulièrement. Donc si un jour je peux passer te voir, bah, je
Ah ben, il n'y a
viendrai
pas de souci.
courir avec toi avec un grand plaisir parce que bah, j'apprécie beaucoup ta démarche, comment
Eh
tu vois
ben, je te
ça,
ferai
etc.
découvrir aussi je pense que tu cours beaucoup en nature aussi. Je te ferai découvrir le tour du lac du Salagou si tu veux. Il n'y a aucun problème. C'est un beau site de course à pied qui permet d'avoir un peu tout le style de course. Trail, nature et avec beaucoup de relance.
Eh ben écoute, le rendez-vous est pris, tu vois, hein, comme ça,
Ça marche.
si un jour je peux passer. En tout cas, je te remercie beaucoup, Philippe. Je te souhaite bah, une belle fête dimanche. Hein, je te souhaite une belle réussite. Et puis, je souhaite aussi une belle réussite à tous ceux qui seront alignés sur ce marathon-là, mais sur tous les autres marathons, etc., sur toutes les courses qu'ils vont faire. Et puis nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Ciao, ciao, merci, bonne journée.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.